المنظومة اللبنانية لدى اليونيفال سابقا العميد منير شحادة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات.
شكرا شكرا.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. كنت أنا معكم بدر الدين مهوب، في أمان الله.
Radio Algérie Internationale. Le journal.
À la une de ce journal, 197e jour de l'agression sioniste sur Gaza, les bombardements s'accentuent, notamment à Rafah, où 7 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la nuit d'hier. En 6 mois de guerre, le bilan des martyrs s'alourdit à 34 049. Vive condamnation du veto américain au Conseil de sécurité après le blocage hier de la candidature palestinienne à l'adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie saluée pour son engagement et sa persévérance en faveur de la Palestine diplomatiquement, sa dernière initiative est loin d'être un échec, disent les spécialistes. Et l'étau juridique se resserre sur l'entité sioniste pour ses crimes atroces à Gaza. Netanyahou tente de repousser l'émission imminente et redoutée par la Haye d'un mandat d'arrêt, le point dans ce journal. Et l'actualité, c'est aussi le soutien à la Palestine de plus en plus croissant en Occident. Exemple en Espagne où une grande manifestation se tient ce week-end dans 80 villes du pays. Bonjour à tous. Je vous le disais en titre, la bande de Gaza demeure sous les bombardements. L'armée sioniste poursuit son offensive aérienne dans différents secteurs du territoire, notamment à Rafah, où dans une nouvelle nuit de bombardements, au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs. Hier, le bilan des martyrs qui ne cesse de s'alourdir en 24 heures. Le ministère de la Santé à Gaza a recensé au moins 37 martyrs. En 6 mois de guerre, le bilan s'élève à 34 049 martyrs et la situation humanitaire demeure intenable avec la généralisation de la famine dans ce territoire assiégé. L'ONU et plusieurs ONG ne cessent de le crier haut et fort, accusant la puissance occupante d'être entièrement responsable des pires atrocités et de crimes de guerre. L'entité sioniste sous le coup de plaintes pour génocide au niveau de la Cour internationale de justice, mais également au niveau de la CPI. Selon des médias sionistes, les craintes s'accentuent désormais autour d'une possible émission par la Haye d'un mandat d'arrêt international annoncé pour un avenir proche contre Benjamin Netanyahou. 3 ministres et plusieurs experts juridiques du gouvernement sioniste ont d'ailleurs tenu cette semaine une discussion d'urgence au bureau du Premier ministre pour tenter de repousser cette requête. Selon François Deroche, président de l'ONG française Justice et Droits sans frontières, ce mandat d'arrêt international contre Netanyahou aurait dû être émis il y a longtemps. On l'écoute.
Netanyahou, aujourd'hui, il est en train de faire quelque chose de très grave, même pour Israël. Il est en train de creuser la tombe d'Israël. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a un homme uniquement pour échapper à la justice israélienne. Il est en train de faire perdurer la guerre. Vous savez que nous avons été à La Haye devant la CPI pour demander une intervention rapide pour l'arrêt de cette agression. On a M. Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, après plusieurs mois, une certaine duplicité, une certaine paresse et peut-être une certaine complicité. Et il est temps que Karim Khan, de sa torpeur, de sa somnolence, pour effectivement délivrer des mandats d'arrêt pour Netanyahou et pour quelques criminels de l'armée israélienne.
Et l'ONG Justice et Droits sans frontières qui a tout récemment porté plainte pour crime de guerre après cette vidéo relayée montrant un soldat français sioniste torturant des prisonniers de guerre palestiniens à Gaza. Cette plainte va ouvrir la voie à la poursuite des 4800 Français enrôlés dans cette agression sioniste.
En France, il y a 4800 soldats qui sont partis combattre en Israël à Gaza, qui ont été rappelés par Israël pour faire dans le cadre en étant réserviste. Donc aujourd'hui, ces gens-là, en fait, ils sont français, ils portent la nationalité française et la nationalité israélienne, mais un Français ne peut pas commettre des crimes de torture, ne peut pas commettre des crimes contre l'humanité, ne peut pas commettre une agression à l'égard de gens, de civils.
François de Roche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières, contacté par Rim Bokhari, l'antisioniste forte soutien de ses alliés. À leur tête, les États-Unis, sur un front diplomatique, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer le veto américain en Conseil de sécurité bloquant hier la candidature palestinienne à l'adhésion à part entière à l'ONU. Un projet de résolution à l'initiative, pour rappel, de l'Algérie au nom du groupe arabe. L'Algérie saluée pour son engagement et sa persévérance à se tenir coûte que coûte la cause palestinienne dans les instances internationales. Écoutons l'avis de Arslan Chekhaoui, politologue et spécialiste en relations internationales. Il répond à Asma Fidala.
En diplomatie, il n'y a pas de vaincu.
Oui.
Il y a surtout un dialogue et une pression qui se maintient de manière permanente. Et c'est un petit peu cela que l'Algérie, via son ambassadeur, M. Benjamin, qui a appelé haut et fort et qui a bien exprimé sa position en disant « Nous continuerons ce combat » parce que c'est un combat diplomatique. Et le combat diplomatique va continuer. Pourquoi ? Parce que l'Algérie continue à défendre ses positions de principe, ses positions de principe fondamentaux et qui sont parmi ces principes, on cite l'autodétermination des peuples. D'accord. La Palestine est un cas. Le Sahara occidental est un deuxième cas. Alors, en diplomatie, on parle de la règle des trois P. C'est quoi la règle des trois P? C'est la présence, la patience et la persévérance. Voilà pourquoi l'Algérie s'est exprimée en disant nous ne considérons pas que nous sommes vaincus, mais que nous continuerons encore dans cette voie-là, à soutenir cette cause-là et à continuer à réitérer notre position et surtout à remettre sur la table une autre proposition.
Et cette information qui vient de nous parvenir, l'Union européenne a fermement condamné la violence des colons dans les territoires palestiniens occupés et souligné que les auteurs de ces actes extrémistes doivent être tenus responsables. Au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a également souligné que l'Union européenne a décidé de sanctionner les colons extrémistes de Cisjordanie et de la ville de Sainte Al-Quds occupés pour de graves violations des droits humains contre les Palestiniens. Les attaques des colons en Cisjordanie ont conduit au déplacement de 7 communautés palestiniennes depuis le 7 octobre 2000. Des groupes paramilitaires pro-iraniens au sud de Bagdad. L'explosion s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi sur la base de Khalso au sud de Bagdad, où est stationné l'ancien groupe paramilitaire pro-iranien Hashd al-Sha'bi, aujourd'hui intégré à l'armée régulière. L'explosion a touché des équipements, des armes et des véhicules. Morad Ait Mokhtar et les détails.
La tension semble monter d'un cran dans le Moyen-Orient où une attaque a ciblé une base militaire irakienne faisant un mort et 3 blessés. Une attaque qui semble répondre à un plan sioniste de créer des nouveaux fronts de tension pour détourner l'opinion internationale des crimes en Palestine occupée. Nedal Zahawi, expert militaire libanais.
L'escalade de la pression et de la tension qu'exerce l'entité sioniste sur le front le plus faible, à savoir l'Irak, vise à réaliser deux objectifs. Rehausser le moral des colons sionistes en Palestine occupée et détourner l'attention des crimes que commet l'entité sioniste en Palestine occupée.
Le Moyen-Orient est en proie à un risque imminent d'escalade, car maintenir une tension sur la région sert les intérêts tactiques de l'entité sioniste et son allié américain à véhiculer un récit mensonger sur ce qui se passe en Palestine occupée. Nedal Zahawi.
La base qui a été bombardée est une ancienne base militaire américaine où étaient enfouis des missiles et des bombes de l'armée américaine du temps où elle était stationnée en Irak. L'entité sioniste l'a bombardée pour ne pas permettre aux forces du Hashd al-Sha'bi de les utiliser. Cette opération vise à créer une tension en dehors de la Palestine occupée dont la visée est de détourner l'opinion internationale de ce qui se passe comme crime dans la bande de Gaza et dans la Cisjordanie occupée.
Se sachant perdante de la guerre médiatique sur le plan international de l'opinion publique, l'entité sioniste tente à travers le bombardement de focaliser l'attention internationale sur de nouveaux conflits et fronts d'affrontement qu'elle crée elle-même afin de poursuivre impunément son génocide en Palestine occupée.
Et cette rencontre entre le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui vient de débuter ce samedi au palais de Dolmabahçe à Istanbul, d'où l'on retrouve notre correspondante Zineb Benzaoui.
Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé en Turquie pour s'entretenir avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à la lumière de l'agression continue contre Gaza pour le 7e mois consécutif. Erdogan doit rencontrer Haniyeh aujourd'hui samedi à Istanbul pour la première fois depuis le début des événements. Le président turc a refusé de révéler les sujets des discussions prévues lors de son entretien avec les journalistes, déclarant « gardant cet ordre du jour entre nous et M. Haniyeh et prenons nos mesures en conséquence. » Le président turc a renouvelé son affirmation de sa position aux côtés du peuple palestinien face à l'agression sioniste continue et son accent sur le fait que le Hamas est un mouvement de libération nationale. Depuis Istanbul, Zineb Benzaoui, Radio Algérie Internationale.
Et direction l'Europe pour parler de ces rassemblements. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes d'Espagne, environ 80 villes, en soutien au peuple palestinien. Lahsen Boulsan, analyste. Vous écoutez ces précisions de Lahsen Boulsan, établi en Espagne. Il est analyste et il nous parle depuis Majorque.
Aujourd'hui et demain, 21 avril, l'Espagne connaît des manifestations de soutien aux Palestiniens dans plus de 100 villes espagnoles. Dans un communiqué de l'organisation Réseau de solidarité contre l'occupation israélienne de Palestine, il a annoncé que les manifestations qui auront lieu aujourd'hui et demain diront non au génocide à Gaza, non à l'occupation en Palestine, non à l'apartheid, non aux expulsions ethniques et au colonialisme des colonos.
C'était donc Lahsen Boulsan depuis l'Espagne. Plus précisément, depuis Majorque. Et avec cette information, on arrive à la page sportive qu'on entame par de la gymnastique. L'Algérienne Kaylan Moore a offert à l'Algérie une médaille d'or en Coupe du Monde de gymnastique artistique qui se déroule au Qatar, n'est-ce pas Walid Darcy?
Exactement, Mourad Moussaoudan. L'Algérienne Kaylan Moore a décroché hier la médaille d'or au bord asymétrique de la quatrième et dernière étape de la Coupe du Monde de gymnastique artistique qui se déroule du 17 au 20 avril à Doha au Qatar. L'Algérienne de 17 ans a terminé ce concours avec 15 366 points, se plaçant largement devant la Philippine Rui Vivar Levy avec 13 603 points au moment où la Biélorusse Alena Tivavets s'est contentée de la troisième place avec 13 600 points. Cette quatrième et dernière étape de la Coupe du Monde de gymnastique artistique à Doha a permis à la Philippine Rui Vivar Levy et à la Néo-Zélandaise Georgia Rose Brown de décrocher les deux derniers billets qualificatifs aux Jeux Olympiques de Paris. Nemour, elle, y était déjà qualifiée et bien avant de venir au Qatar, cette dernière étape de Coupe du Monde a enregistré une participation exceptionnelle de plus de 250 gymnastes représentant 69 nations. Et on rappelle que Nemour a profité de cette compétition mondiale pour préparer les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 avril au 7 mai prochain.
Place au handball, Walid, l'OM Annaba, première équipe algérienne qualifiée pour le prochain tour du championnat d'Afrique qui se déroule à Oran.
Absolument, voilà, on jouait hier les premières rencontres de la deuxième journée du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule à Oran. Une journée marquée par la qualification chez les messieurs de la formation de l'OM Annaba au prochain tour grâce à sa victoire contre l'autre club algérien du CR Bémila, 30 à 27. Et cette journée a été aussi marquée par l'élimination de l'équipe de l'ES Ain Touta après sa deuxième défaite en compétition africaine. Hier aussi, c'était contre le géant africain, il s'agit d'El Ahli d'Égypte, sur un score final de 31 à 36. La deuxième journée se poursuivra aujourd'hui avec plusieurs rencontres au programme chez les messieurs, à commencer par le match de la jeunesse de Skikda qui affrontera El Ahli d'Égypte à 18h. Le vainqueur de ce match se qualifiera pour le prochain tour. Et à propos de cette rencontre, je vous propose d'écouter le portier de la JS Skikda, Adel Bousmal. Il est au micro de notre envoyé spécial, Walid Melzougi.
Certes, on fera face à une équipe de l'Ahli d'Égypte, une grande équipe qui a un historique riche. Mais bon, on jouera cette compétition match par match. On fera face à n'importe quelle équipe. On est là pour jouer, on est là pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Et on fera de notre mieux, Inch'Allah.
Et pour être plus complet, on écoute aussi le joueur égyptien Omar Khaled, toujours au micro de Walid Malzougi. Dieu merci, premièrement félicitations au club d'El Ahli. Aujourd'hui, nous avons affronté une bonne équipe de Ain Touta que nous avons cernée contre la GS Kigda lors de son premier match. C'est une équipe respectable, bien organisée. Il y a de bonnes équipes algériennes, tunisiennes, égyptiennes même dans cette compétition. Il nous reste demain un match qui ne sera pas facile contre la GS Kigda. On doit bien préparer cette rencontre. Voilà, et donc on continue avec le programme de Tunis, la formation congolaise de Kinshasa face à la BR Rwandais. Et chez les dames, le club d'El Bihar de nos Algériennes sera opposé au club du DGS congolais. Les filles de Boumerdès affronteront l'AS Artobo du Congo, club de Mila face au Red Star ivoirien, et El Ahli d'Égypte contre Primeiro d'Angola. Et enfin, Petro Atlético angolais qui sera opposé au club ivoirien d'Abidjan.
Et on enchaîne avec du football. On jouait hier 5 rencontres lors de la 23e journée de Ligue 1 Mobilis. Le Mouloudia conforte sa place de leader.
Effectivement, la 23e journée s'est poursuivie hier avec 5 rencontres puisque la première journée s'est déroulée mardi dernier. Rappelez-vous, la JSK a battu le Mouloudia Club de Rang 3-1. Le Mouloudia d'Alger est revenu hier avec un précieux point de Maghreb grâce au nul arraché à l'extérieur 0 partout contre le NC Maghreb et donc consolide sa place de leader avec 53 points et devance le dauphin de 10 points, à savoir le CS Constantine qui lui s'est imposé hier à l'extérieur contre l'USM Khenchla 2-1. L'Union sportive de Souf s'est inclinée à domicile contre la Sochlef 2-0. L'entente sportive de Sétif a battu la GS Saoura 2-1. Et le CR Belouizdad s'est imposé contre l'US Biskra 4-0. Et on jouera aujourd'hui notre rencontre où le Paradou AC recevra le Mouloudia d'El Bayed à 16h. Et toujours football, on disputera aujourd'hui le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF où le TP Mazembe recevra le tenant du titre El Ahli d'Égypte à 14h. Et à 20h, l'Espérance de Tunis accueillera au stade de Rades la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Et un dernier mot, Mourad, avec du volleyball. Les clubs algériens de volleyball de l'ASV Blida et du Wydad de Tlemcen affronteront respectivement la Green Team de la République démocratique du Congo et le club de la Police VB du Rwanda en 8e de finale du championnat d'Afrique des clubs 2024 prévu aujourd'hui au Caire. Les volleyeurs de Blida qui ont bouclé, rappelez-vous, la phase de poule avec un bilan de 4 succès contre une défaite seront les premiers à entrer en lice face à la Green Team de la République démocratique du Congo à partir de 15h. Heure algérienne, bien entendu, alors que le 6 de Tlemcen jouera son 8e de finale face au club de la Police VB du Rwanda, et ce à partir de 19h. De son côté, le tenant du titre, le club tunisien, le Mouloudia de Bousselem, sera opposé au Green Buffaloes de Zambie. Voilà qui termine cette page sportive. Retour à vous, Mourad.
Merci Walid, merci pour cette page sportive riche. Fin de ce journal, le rappel des titres dans un instant. 197e jour de l'agression sioniste sur Gaza, les bombardements s'accentuent notamment à Rafah où 7 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la nuit d'hier. En 6 mois de guerre, le bilan des martyrs s'alourdit à 34 049. Vive condamnation du veto américain au Conseil de sécurité après le blocage hier de la candidature palestinienne à l'adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie saluée pour son engagement et sa persévérance en faveur de la Palestine. Diplomatiquement, sa dernière initiative est loin d'être un échec, disent les spécialistes. Et l'étau juridique se resserre sur l'entité sioniste pour ses crimes atroces à Gaza. Netanyahou tente de repousser l'émission imminente et redoutée par la Haye d'un mandat d'arrêt. Le point 1, vous avez suivi les détails dans ce journal. Et l'actualité, c'est aussi le soutien à la Palestine de plus en plus croissant en Occident. Exemple en Espagne où une grande manifestation se tient ce week-end dans 80 villes espagnoles. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes.
L'interview du journal.
L'interview du journal.
Chers
Chers auditeurs, soyez les bienvenus. Nous allons parler aujourd'hui de l'action diplomatique algérienne au sein de l'ONU en faveur de la Palestine. Pour nous éclairer sur le sujet, est avec nous le docteur Arslan Chihaoui. Bonjour docteur, alors vous êtes expert en géopolitique et membre du comité d'experts auprès des Nations Unies pour le suivi de la résolution 1540.
Bonjour, merci de votre invitation.
Merci à vous, docteur, d'être parmi nous. Alors, en janvier dernier, l'Algérie a entamé son mandat de 2 ans au sein de l'ONU. Depuis, elle a multiplié les initiatives. Nous allons y revenir tout au long de cet entretien. Mais avant, commençons par le dernier projet où les États-Unis d'Amérique ont mis leur veto à l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU. Le projet, vous le savez, présenté par l'Algérie, a recueilli 12 votes pour, 1 contre et 2 abstentions, à savoir celle de la Grande-Bretagne et la Suisse. D'abord, docteur, comment réagissez-vous au veto américain ? C'était prévisible, les États-Unis ont déjà usé de leur veto à 3 reprises depuis le début de l'agression sioniste sur la bande de Gaza.
Tout à fait. En fait, le veto américain était prévisible. Était prévisible pour la simple et unique raison, c'est que c'est un levier qui permet aux États-Unis de maintenir leur puissance au niveau du Conseil de sécurité et au niveau des Nations Unies. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les États-Unis sont le plus gros contributeur des Nations Unies. Ils représentent 27,89% en termes de contribution financière, c'est-à-dire plus d'un quart de la contribution. Et ça, ça leur donne encore un autre levier complémentaire pour pouvoir, à chaque fois, émettre leur veto à toute action qui pourrait gêner, déranger, perturber la relation entre les États-Unis et Israël. Par rapport à cela, effectivement, toute initiative pourrait venir un petit peu contredire la stratégie américaine, parce qu'il y a une stratégie, on en parlera tout à l'heure,
oui.
La stratégie américaine dans la région recevra un veto de la part des États-Unis. Alors pourquoi, en gros, et on l'expliquera tout à l'heure, c'est que les États-Unis ne veulent pas d'une décision des Nations Unies pour pouvoir régler le contentieux, le conflit arabo-palestinien, arabo-israélien ou entre Israël et la Palestine. Pourquoi ? Parce que les États-Unis souhaitent avoir une négociation, appeler les deux belligérants toujours à la table des négociations où les États-Unis doivent influer de leur poids dans la négociation. Tout est lié en fait à ce que veulent les États-Unis dans la région, et surtout la stratégie américaine est basée essentiellement sur le fait qu'elle veut appeler les deux belligérants à se mettre autour de la table pour une négociation et non pas leur imposer une décision venant des Nations Unies.
Oui. Alors, docteur, vous m'avez devancé, vous avez parlé de l'intérêt des États-Unis et par rapport à ce veto, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent faire durer le conflit ?
Très bonne question. Y a un élément qu'on va rajouter pour pouvoir expliquer s'ils veulent faire perdurer le conflit. Premier élément, c'est qu'il y a des élections aux États-Unis. Les élections, les prochaines élections présidentielles aux États-Unis, un des enjeux essentiels, c'est le lobby juif aux États-Unis qui a un poids sur les élections présidentielles. Donc, aujourd'hui, l'administration Biden ne veut pas perturber et se mettre à dos le lobby juif aux États-Unis, compte tenu des considérations un petit peu électoralistes. Le deuxième élément, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un acte, une loi américaine qui incite les États-Unis à résoudre le conflit entre la Palestine et Israël en les amenant autour de la table des négociations. D'accord ?
Oui.
Et par conséquent, nous arrivons au conflit. En réalité, de manière indirecte, c'est faire perdurer ce conflit. Faire perdurer le conflit jusqu'aux élections présidentielles. dès que les élections présidentielles seront faites, dès que la nouvelle administration sera élue, à ce moment-là, les États-Unis d'Amérique passeront à une deuxième étape dans la résolution ou dans essayer de trouver une solution intermédiaire à cette situation au Moyen-Orient.
Donc elle obéit à un agenda interne.
Elle obéit à un agenda interne et à des pressions d'un lobby très puissant qui compte dans l'électorat américain.
Oui. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis qui sont le principal fournisseur de l'organe onusien. On sait que l'argent est le nerf de la guerre. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut réformer l'ONU. Mais comment, étant donné que toutes les portes sont scellées?
Ah ben, effectivement. Alors, aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire des Nations Unies ou de l'ONU.
Oui.
Mais en réalité, l'ONU est née à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Avec tout le contexte de l'époque.
Oui.
Entre-temps, les deux blocs il y a eu une recomposition de la géopolitique après la chute du mur de Berlin.
Oui.
Et nous sommes aujourd'hui dans une troisième phase qui est celle de nouvelle recomposition géopolitique de la planète et qui aujourd'hui appelle, parce qu'en fait c'est une réalité, il y a un nouveau contexte. Les Nations Unies, la structuration des Nations Unies et du Conseil de sécurité n'est plus adaptée au contexte actuel. Donc en réalité, effectivement, vous l'avez si bien dit, comment ça pourrait se faire? Ça ne peut pas se faire de manière directe et de manière à court terme. Ça ne se fera qu'à partir d'une longue période de diplomatie et de dialogue et de dialogue entre puissances, parce qu'il faut considérer que c'est une discussion entre puissances économiques, mais entre puissances géopolitiques. Je cite la Chine, je cite la Russie, je cite les États-Unis d'Amérique, je cite la France, je cite d'autres pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Donc, mais cela ne peut se faire que sous la pression permanente et récurrente des pays de ce qu'on appelle communément aujourd'hui le Sud global. Tant qu'il n'y aura pas de pression qui seront faites par les pays du Sud global, il n'y aura pas de réforme du système des Nations Unies. Et par conséquent, les États puissants du Conseil de sécurité continueront à jouir de cette force. D'accord, et de cette présence, qu'elle soit financière et d'influence au sein des Nations Unies.
Oui.
Encore une fois, c'est le Sud global qui pourra influer, mais de manière récurrente et sans relâche. Il faut que ce soit sans relâche pour pouvoir faire arriver à un moment donné la diplomatie à aborder cette question-là de manière franche et transparente.
Oui. Docteur, une dernière question. Après le vote américain, l'Algérie ne s'avoue pas vaincue. L'ambassadeur algérien Amar Benjamah, d'ailleurs, l'a affirmé. L'Algérie, au nom des pays arabes, va présenter à nouveau cette requête ultérieurement. On l'a dit, ce n'est pas la première initiative de l'Algérie. Quel impact auront ces initiatives?
Alors, d'abord, il faut comprendre qu'en diplomatie, il n'y a pas de vaincu. Ça,
oui.
C'est clair. En diplomatie, il n'y a pas de vaincu.
Oui.
Il y a surtout un dialogue et une pression qui se maintient de manière permanente. Et c'est un petit peu cela que l'Algérie, via son ambassadeur, M. Benjamah, qui a appelé haut et fort et qui a bien exprimé sa position en disant « Nous continuerons ce combat. » Parce que c'est un combat diplomatique. Et le combat diplomatique va continuer. Pourquoi? Parce que l'Algérie continue à défendre ses positions de principe, ses positions de principe fondamentaux, et qui sont parmi ces principes, on cite l'autodétermination des peuples, d'accord? La Palestine est un cas, le Sahara occidental est un deuxième cas. Alors, en diplomatie, on parle de la règle des 3 P. C'est quoi la règle des 3 P? C'est la présence, la patience et la persévérance. Voilà pourquoi l'Algérie s'est exprimée en disant nous ne